Merci, Pascal. Nous aurons deux lectures aujourd'hui. La lecture de la prédication qui est courte. Je ne vais même pas relire toute la prière du Seigneur que nous étudions depuis plusieurs semaines. Je vais juste lire la partie qui nous concerne aujourd'hui. Et ensuite, on lira une parabole de Jésus qui est très liée à ce texte. Donc, nous sommes dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6. Et je commence la lecture au verset 12. Matthieu 6, 12. C'est le Seigneur qui nous parle dans sa majesté. Et il nous indique que nous devons prier comme ceci. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Et puis ce petit commentaire. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Avant de lire le deuxième passage, je vais faire quand même ce commentaire. Vous avez remarqué que il n'y a qu'une phrase dans la prière du Seigneur qui n'est pas une requête que nous adressons à Dieu. Une seule phrase. Une demi-phrase. C'est une affirmation que nous faisons. Pardonne-nous nos offenses, c'est une requête. Mais la partie qui suit, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et nous ne sommes pas en train de demander, mais nous sommes en train d'affirmer que nous pardonnons aux autres. Aussi, cette phrase que nous demandons que Dieu nous pardonne, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, est la seule phrase de la prière du Seigneur que Jésus commente après la prière. Il ne nous commente pas, il ne nous explique pas la requête que ton nom soit sanctifié ou donne-nous notre pain quotidien, mais il commente sur cette demi-phrase « comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Il prend la peine dans les versets 14 et 15 et on finit la prière de dire, si vous pardonnez aux hommes leur faute, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est extrêmement important. Comme si le Seigneur voulait dire, ah, il y a une requête qui est au centre de cette prière. Et il faut bien savoir que la réponse à cette requête est conditionnelle. Maintenant, nous lisons notre deuxième passage qui se trouve dans Matthieu chapitre 18 et nous lirons les versets 15 à 25 et vous verrez tout de suite pourquoi il nous convient de lire ce passage aujourd'hui. C'est Jésus qui enseigne et il dit, au verset 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Je vais sauter donc quelques versets. Et donc Pierre au verset 21 dit, Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi, jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Faites le calcul. vous-même 490 fois, c'est une manière de dire, n'arrête jamais de pardonner ton frère. Et maintenant, cette parabole, pour expliquer pourquoi on doit autant pardonner à notre frère. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Donc, il demande des comptes à ses serviteurs qui ont dû gérer son argent, etc. Quand il se mit à compter, on lui amena un serviteur qui devait 10 000 talents. 10 000 talents, c'est une énorme somme d'argent que pour ce, personne ne pourra jamais rembourser, même en donnant tout son salaire à son débiteur, à son créditeur pendant toute sa vie. C'est une énorme somme d'argent. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna de le vendre, lui, sa femme et ses enfants, et tout ce qu'il avait, de payer la dette. Le serviteur se jeta à terre, se prosterna devant lui, et dit, « Seigneur, prends patience envers moi, et je te paierai tout. » Touché de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Parce qu'il était en fait impossible que le serviteur le rembourse. En sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. 100 deniers, c'est 100 jours de salaire. C'est rien par rapport à la dette qu'il devait à son maître. Il le saisit et le serrait à la gorge en disant « Paye ce que tu me dois ». Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait, tout comme il l'avait fait envers son maître. Maintenant, c'est lui qui est l'objet d'une supplication. « Prends patience envers moi et je te paierai la même requête. » Mais lui ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant ce qui arrivait, furent profondément attristés. Et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette énorme, colossale. Parce que tu m'en avais supplié, ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Vous avez sur votre feuille un peu le plan de ce message. Je voulais juste, dans un premier point, faire une petite révision de la semaine passée. Vous et moi, nous devons prier au sujet du pardon et de nos péchés parce que nous en avons tout le temps. Mais cette prière « Pardonne-nous nos offenses » n'est pas au sujet de cette condamnation éternelle qui pend sur ceux qui ne sont pas chrétiens parce que le Seigneur a déjà enlevé ça. Nous sommes en train de dire « Pardonne-nous dans ce cercle familial où si tu ne me pardonnes pas, c'est pas que je vais aller en enfer, mais c'est que je vais subir ta discipline paternelle, qui peut être sévère, jusqu'à ce que je me repente. » Et donc, nous parlons dans cette sphère de la famille où nous sommes dans la famille, nous sommes enfants, mais le péché, c'est le péché, et le Père n'accepte pas que nous l'offensons impunément et sans se repentir. Nous avons dit que c'est d'une immense importance que nous vivions avec Dieu en demandant pardon quand nous lui offensons. Parce que nous avons dit que quand tu ne demandes pas pardon à quelqu'un, c'est que cette personne n'est pas importante pour toi. Et c'est pour cette raison que tu peux l'offenser sans penser que ça vaut la peine de lui demander pardon. Il est impossible de vivre avec Dieu en tant que Dieu sans constamment demander pardon et recevoir son pardon. Et Dieu lui-même ne nous accordera cette pleine vie en lui si nous ne trafiquons pas dans ces deux commodités importantes, repentance et pardon. Constamment. Ok, ça c'est la semaine passée. Maintenant, le deuxième point commence notre réflexion d'aujourd'hui. Puisque le Seigneur enseigne que pour recevoir son pardon, je dois pouvoir affirmer que j'ai pardonné aux autres, pardonne-moi comme j'ai pardonné à ceux qui m'ont offensé, comment puis-je savoir si je suis en train de pardonner aux autres? Vous allez devant Dieu tous les jours et normalement, vous devez affirmer à Dieu tous les jours que vous êtes en train de pardonner aux autres. C'est ça le sens de cette prière. Pour pouvoir affirmer cela et dire « pardonne-moi comme je pardonne, je suis en train de pardonner », en fait, c'est dans le passé, comme j'ai pardonné aux autres avant d'arriver devant toi. Alors, je dois savoir si oui ou non, je suis en train de pardonner aux autres dans ma vie. Et je vais vous donner deux moyens principaux pour savoir si vous êtes en train de pardonner aux gens qui vous offensent. Attention, parfois les gens vous offensent en faisant un tort à vous, et parfois les gens vous offensent juste parce qu'ils sont égoïstes ou mauvais dans votre présence sans que cet acte vous soit dirigé. Parfois, on est offensé juste parce que chaque fois que je suis avec lui, il monopolise la conversation, il est tellement égoïste, il parle que de lui-même. Bah, il n'a pas fait exprès pour te faire un tort, mais simplement le fait qu'il pêche, même s'il pêche simplement dans l'air, tu es offensé et tu tiens ça contre lui. Ah! N'est-ce pas? Donc, que ce soit une faute directe parce que quelqu'un t'a marché sur ton pied, exprès, ou bien il pêche comme ça dans ta présence, tu es offensé. Et tu dois savoir, est-ce que je suis en train de pardonner aux autres ou pas? Deux moyens. Premier moyen. Le manque de pardon, bon, je dis ceci en préalable, le manque de pardon, comme la colère, est une réalité qui peut être vraiment très présente dans ta vie sans que tu en sois consciente. C'est pourquoi je prends la peine de le dire. Vous savez qu'une fois, ma femme et moi, nous avons eu affaire avec un couple où il y avait un grand problème de colère chez la femme. Qui jetait des casseroles à travers la cuisine pour taper son mari. Hein? Donc, il y avait quand même un problème de colère. Et un jour, ma femme lui a dit, est-ce que tu sais que tu es colérique, que tu as un problème de colère? Elle était prise complètement, sincèrement, et totalement au dépourvu. Elle ne savait pas qu'elle était en colère. Elle a tellement vécu avec cette colère qu'elle ne réalisait plus que c'était présent. D'autant plus pour le manque de pardon. Et il peut y avoir des gens dans votre vie et ils pêchent contre vous constamment. Et vous vivez maintenant, non pas avec un amour généreux et franche, mais avec un peu une attitude bien plus neutre envers eux. Et vous ne savez pas, vous n'êtes pas conscient qu'il y a là un manque de pardon. Donc, nous devons avoir un moyen de savoir, est-ce que je suis dans cette réalité du pardon. Deuxième point en préalable, c'est qu'il est important de bien distinguer entre la disposition à pardonner et l'acte de pardonner quelqu'un qui vous le demande. Je vous donne un exemple. Vous regardez les actualités à la une, à 20h, et il y a eu un événement tragique. Quelqu'un a été violé ou l'enfant d'une personne a été tuée et on interview la victime qui a été violée ou dont l'enfant a été tué. Et le reporter dit, cela arrive, ça dépend de la culture, je l'ai vu, est-ce que tu pardonnes à l'agresseur. Que la personne dit oui ou non, il y a là une erreur. Le oui est en erreur et le non est une erreur. Pourquoi? Parce que la question est impossible à poser dans cette situation. C'est une mauvaise question. Parce que pour octroyer le pardon à quelqu'un, c'est une affaire qui demande la présence de deux personnes. Une personne qui se repent et qui demande pardon, et l'autre qui donne en réponse à cette repentance le pardon. D'accord? Vous avez compris? Mais si l'autre personne n'est pas là, c'est le rapporteur qui dit « Est-ce que tu pardonnes ?» C'est une fausse question. Est-ce que la personne veut bien venir vers moi, repentant, demandant. Peut-être la personne ne veut même pas que je lui pardonne et pense qu'elle avait raison de faire cela. Donc vous voyez, quelle est la bonne question? La bonne question, si on devait poser une question, c'est est-ce que tu es dans la disposition de vouloir pardonner cette personne si elle se repent et demande ton pardon? Ça, c'est une question valable à poser à une personne toute seule, sans l'agresseur, sans l'offenseur. Et quand Jésus dit que nous devons prier, pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres, il veut dire les deux choses. Il veut dire que comme nous pardonnons aux autres veut dire que quand les gens se sont repentis et m'ont demandé pardon, je leur ai donné pardon. Et aussi, pour ceux qui n'ont pas demandé pardon et qui font des torts significatifs contre moi, oui, Seigneur, mon pardon est virtuellement donné déjà. Je me tiens prêt et désireux de leur donner ce pardon en espérant qu'ils demandent. D'accord? Je suis dans une disposition de vouloir pardonner. Et je ne suis pas en train de tenir la chose contre cette personne en espérant que la personne ne se repente pas, parce que j'ai envie de tenir ça contre cette personne pour toujours. Vous voyez la différence? Il y a un problème de cœur là. Maintenant, troisième point en préalable, l'amour couvre une multitude de péchés. Nous pardonnons aux autres souvent le péché sans qu'ils nous demandent le pardon. Mais dans certains cas, l'accord du pardon exige la repentance du coupable. Je voulais juste vous montrer qu'il n'est pas nécessaire pour tous les péchés qu'on commet contre vous qu'on vienne vous demander chaque fois le pardon. Si vous êtes parent, vous savez que vos enfants font preuve de négligence vis-à-vis de vous. Ils laissent des chaussettes, ils laissent. Vous leur avez dit 1000 fois et ils le font quand même. Et qu'est-ce que vous faites? Souvent, vous ramassez ça et vous couvrez ça. Parfois, pour leur bien, il est nécessaire de les corriger. Mais même cette correction, si ça vient d'un cœur pardonnant, ça se voit. Ça se voit. Un cœur prêt à pardonner. Mais parfois, il y a des choses tellement graves que vous ne pouvez pas octroyer, donner ce pardon, et c'est-à-dire maintenant mettre la chose en oubli, comme si ça ne s'est jamais passé. Vous ne pouvez pas faire ça parfois, à moins que la personne se repent, mais vous vous tenez prêt à le faire et vous avez envie de le faire. Et vous n'êtes pas là dans une position de tenir rigueur à cette personne de cette chose. Maintenant, je vous donne les deux moyens pour que vous puissiez savoir que si vous êtes en train de pardonner et d'avoir la disposition à pardonner. Premier moyen, ça vient du texte de Matthieu 6, Jésus littéralement dit, nous dit de prier, pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons aussi à nos débiteurs. C'est vraiment important que Jésus emploie ce mot qui normalement est un mot employé pour les affaires d'argent parce que ça nous aide à comprendre ce que c'est que le pardon. Quand quelqu'un vous offense, là, il y a une dette. Il y a un impayé. Et vous êtes le créditeur et vous avez le sentiment que vous me devez. Vous me deviez. Vous me devez de réparer cette situation, de demander pardon pour cette situation, de restituer, de demander pardon. En tout cas, on n'est pas dans une relation normale parce que vous me devez, n'est-ce pas? Et si vous êtes en train de pardonner aux gens, vous le savez parce que vous n'êtes pas en train de les tenir, de les garder dans cette situation. J'attends que vous payiez. J'attends que vous me remboursiez. D'accord? Quand vous remettez une dette, vous prenez cette dette sur vous-même. N'est-ce pas? Si quelqu'un me doit 100 euros et je remets la dette, qui paye le 100 euros? Ne dites pas personne. Il y a quelqu'un qui va payer. Moi, je perds 100 euros et j'accepte cette perte, c'est-à-dire que j'ai payé cela plutôt que la personne qui me le devait. Donc, quand je remets la dette, j'accepte de ne pas garder cette dette contre cette personne. De tenir, d'exiger que la personne paye. Et cette disposition à pardonner et cette disposition à ne pas vouloir tenir rigueur, mais de donner compassion, de donner du mou, de donner clémence, quand vous voulez que Dieu vous fasse. Et si vraiment il faut que la personne se repente, vous vous tenez dans cette situation où c'est tout ce que je veux. Je veux ne pas tenir ce pardon, et en tout cas, je refuse de le tenir contre cette personne de manière à être amer et contre cette personne. J'insiste à être pour cette personne malgré son péché. Ça, c'est la première manière. La deuxième manière, je sais que je suis en train de pardonner aux autres et que je peux dire, Seigneur, pardonne-moi comme je pardonne aux autres, quand je peux prier de cette manière-là. quand je peux dire, Seigneur, pardonne-moi comme je pardonne aux autres, si mon cœur dit, non, 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 attends, je reprends ça. Ne me pardonne surtout pas comme je pardonne aux autres. Je sais, parce qu'il y a un nom qui me vient dans la tête. Et il y a un visage qui me vient dans la tête. Et il y a un événement que je n'ai pas pardonné, que je suis encore dans la rigueur, de tenir rigueur. Et je ne veux surtout pas que Dieu agisse de même avec moi. N'est-ce pas? Vous voyez la grande sagesse de cette prière, la Seigneur l'a formulée de manière à nous aider à détecter si nous sommes en position de prier pour son pardon. Il y a peut-être des symptômes secondaires après ces deux grands moyens que vous pouvez utiliser pour savoir si vous pardonnez. Hein? Est-ce que vous tenez la dette, premièrement? Et est-ce que vous êtes capable de dire « pardonne-moi comme je pardonne aux autres » Il y a des symptômes secondaires pour me faire tilt que je ne suis pas en train de pardonner. Je vous donne quelques exemples. Quand je me plains de quelqu'un aux autres avec frustration et quand je parle de ses fautes, je parle de quelqu'un, je parle de ma femme, « Oh, notre fils !» Je parle souvent comme ça, « Il est !» Ou je parle de quelqu'un dans l'église, ou je parle d'un voisin, mes paroles trahissent souvent que je ne suis pas en train de pardonner. Quand je me plains de quelqu'un. Jacques chapitre 4, 11 et 12. « Ne parlez point mal les uns des autres. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, parce que c'est justement cela, c'est juger et pas pardonner, parle mal de la loi et juge la loi. » Ou bien, deuxième symptôme, est-ce qu'il y a des gens envers qui vous vous retirez et vous ne voulez plus être vraiment dans leur compagnie intime? Souvent, c'est parce que il y a eu un tort qui n'est pas résolu et qui, surtout de votre côté, n'est pas couvert, n'est pas pardonné. Maintenant, si c'est un criminel, vous ne voulez pas, allez, venez à ma soirée, vous qui m'avez volé. Je comprends qu'il y a des situations où il faut d'abord la repentance et pour que la réconciliation puisse faire complètement. Mais vous comprenez quand même que là, vous pouvez voir que j'ai peut-être de mon côté un manque de pardon qui est possible, mais pas fait. Est-ce qu'il y a des gens pour qui vous ne priez pas? Vous ne cherchez pas leur bien? Vous n'avez pas envie de prier pour leur bénédiction? Probablement, il y a un tort qui n'est pas pardonné par vous. Il y aurait d'autres symptômes. Mais nous devons être capables d'examiner notre cœur et de pouvoir dire, pour autant que je sache, Seigneur, je pardonne aux autres, et donc pardonne-moi. Ok, nous arrivons au troisième point du sermon. Et c'est extrêmement important ce point, quel est le rapport entre le pardon de Dieu envers nous et notre pardon envers les autres? Alors, beaucoup de gens comprennent mal ce verset. Quand Jésus dit que nous devons prier, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il y a des gens qui pensent que Dieu nous pardonne parce que nous pardonnons aux autres. Mais Dieu ne nous pardonne pas parce que nous pardonnons aux autres. Ça, c'est gagner le pardon de Dieu par nos œuvres, n'est-ce pas? Dieu m'a pardonné à cause de ce que j'ai fait, parce que j'ai pardonné aux autres. Et le salut et la grâce et le pardon ne vient pas du tout par les œuvres. Donc, le verset ne dit pas « pardonne-nous parce que nous pardonnons aux autres », mais « pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres ». Et il y a un monde de différence entre les deux idées. OK? Jésus et tout le Nouveau Testament enseignent l'opposé, c'est-à-dire que notre disposition à pardonner provient du fait d'avoir été pardonné le premier par Dieu. Chers chrétiens, écoutez-moi. Si tu pardonnes, c'est parce que d'abord, Dieu t'a pardonné et ému, réjoui, fort de ce pardon immérité et généreux, tu as envie de pardonner. Ton pardon vient toujours du pardon que Dieu t'a accordé à toi. C'est comme un effet de ricochet. C'est comme un débordement. Nous lisons juste trois versets pour nous assurer que mon pardon ou ton pardon des autres ne cause pas le pardon de Dieu envers moi ou envers vous, mais provient du pardon de Dieu envers nous. Regardez bien. 1 Jean 4,19. Pour nous, nous l'aimons. En fait, normalement, la traduction devrait être « nous aimons » parce que le n'est pas dedans. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous aimons et Dieu et le prochain. Nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Plus pertinent, Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. D'accord? Et encore, Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Vous voyez, c'est exactement le contraire. Et si nous voulons voir dans notre parabole en Matthieu 18, nous voyons que c'est étonnant, mais c'est la même chose. Dans les versets 32 et 33, je lis ceci à la fin de l'histoire. « Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Le pardon est toujours reçu de Dieu avant de pouvoir le donner aux autres. Ça va? Toujours dans la Bible. Maintenant, comment est-ce que nous devons comprendre « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ?» Je suis dans le point 3b, si vous avez la feuille. Dieu nous pardonne à condition que nous pardonnons aux autres. Ça, c'est vrai. Et là, je ne suis pas en train de parler du salut éternel et final, mais du pardon d'enfant de Dieu, hein, de tous les jours. Okay? Dieu me pardonne à condition que je pardonne aux autres. Je suis obligé de le lire parce que quand nous lisons les versets 14 et 15 du chapitre 6, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. D'accord? Dans la vie chrétienne de tous les jours, le pardon divin est reçu à condition que nous pardonnons aux autres. Mais comme nous avons dit, nous ne pardonnons pas aux autres que si Dieu nous a pardonné. Nous avons besoin d'avoir donc un triangle, trois points. Et je crois que vous l'avez sur la feuille. La première chose dans notre vie, c'est que Dieu nous a pardonné en Christ. Nous sommes des justifiés. Et notre dette, chers amis, vos dettes et la mienne sont énormes. Absolument énormes comme dans la parabole. C'est incroyable. Et je pensais ce matin, en priant au sujet de ce message, que je crois que si les anges sont capables de pleurer, s'ils regardaient mes péchés, la montagne de mes péchés, et même la manière dont je me suis débattu depuis ma conversion avec le péché, en commettant encore des multitudes de péchés dans mon attitude, dans mes pensées, en essayant de mettre à mort cela, en tombant dedans, en les commettant et en me débattant avec ça, je crois que ça aurait tellement fait pitié. C'est un spectacle pitoyable que les anges auraient pleuré. Quel homme pitoyable, quelle situation pitoyable. Une énorme, énorme dette de péché qui a été complètement remise du fait que je suis justifié pour toujours. Je suis pardonné, je suis un pardonné acquitté. Ça, c'est la première chose. Je crois, tu crois si tu es chrétien, au pardon divin. Et en bas à droite du triangle, voyant l'immensité de ta dette, de la dette dont tu es maintenant pardonné par Dieu, tu vois la dette des autres envers toi comme minuscule et tu les pardonnes. Comme dans la parabole, tu sors, on vient de te pardonner 500 ans de salaire de dette envers quelqu'un. Disons, je ne sais pas, 26 millions d'euros de dette et quelqu'un te l'a pardonné complètement. Tu pars dans la rue et tu n'as aucune dette. Tu rencontres quelqu'un qui te doit 10 euros. Comment? Ou disons 250 euros, c'est pas rien. Mais en sortant de là, de cette expérience, comment est-ce que tu vois les 250 euros? Tu dis, salut! Ah, ta dette! Oublie-le! N'est-ce pas? Oublie-le! C'est rien! Et donc, dans ce triangle où nous vivons dans cette grâce de Dieu, nous sommes la personne qui vient de sortir tous les jours de cet acquittement, ou qui se rend compte de cet acquittement, et qui regarde le péché de cette personne qui t'embête. Et qui dit, c'est quoi en fait? C'est peu de choses. Et donc, tu pardonnes. Tu pardonnes. Tu remets. Tu prends cette dette sur toi-même. Ou si cette personne ne veut pas ton pardon, tu te tiens prêt à le faire et tu n'as plus cette amertume de vouloir que cette personne à tout prix soit punie. Et maintenant, à gauche, en bas du triangle, conscient que tu pardonnes aux autres et que Dieu est infiniment plus clément que toi, tu as l'assurance pour demander son pardon renouvelé pour tes nouveaux péchés. Et tu viens, et le fait que tu pardonnes aux autres devient un argument, devient une source d'assurance. Tu viens devant Dieu et tu dis, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que dans la prière du Seigneur en Luc chapitre 11, la version de Luc, juste après la prière du Seigneur, où il dit la même chose, pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres, nous avons cette parole du Seigneur. Quel père parmi vous, si son fils lui donne du pain, lui donnera une pierre, ou s'il demande du poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il les bonnes choses à ceux qui lui demandent. C'est un peu dans cet esprit. Tu as pardonné aux autres et tu sais, méchant que je suis, si moi je sais donner le pardon aux autres, eh bien, je sais que Dieu va m'accorder son pardon. Donc, le refus de pardon est seulement possible, écoutez bien, quand moi, chrétien, je refuse de pardonner à quelqu'un, il y a une seule chose qui rend ça possible pour un chrétien. J'ai cessé de voir et de comprendre l'immensité de la dette qui m'a été pardonnée. C'est la parabole, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il a pu ne pas pardonner la dette, la petite dette de son prochain, cette personne? Parce qu'il n'a pas pris la mesure de la dette qui lui a été remise. Et en termes bibliques, ça veut dire que tu ne crois pas au pardon. Si tu ne vois pas l'immensité de la dette qui t'a été pardonnée, tu n'es plus en train de croire l'évangile. Et comme tu ne crois pas à l'évangile, tu ne crois pas que tu as été tant pardonné, tu ne pardonnes pas aux autres, tu vois leur péché comme grand. Et bien sûr, quand tu viens demander pardon, tu ne peux pas l'avoir parce que tu es sorti du cercle de l'évangile. Tu es sorti du cercle de la foi que Dieu m'a pardonné infiniment plus que ce que les autres peuvent me faire. C'est pour ça que les deux choses sont attachées, le pardon de Dieu envers moi, mon pardon envers les autres. Pour le dire très simplement, ton pardon envers les autres, c'est la preuve que tu crois au pardon de Dieu dans son immensité envers toi. Le manque de pardon aux autres montre que tu es sorti de cet immense pardon sans avoir vraiment vu et compris et cru ce qui t'a été fait. Et ton besoin, c'est de revenir à la croix, de revenir à l'évangile, de revenir à croire, même si tu ne le ressens pas, mais de croire parce que Dieu l'a dit, que ta dette est infiniment plus immense que celle des hommes ou autres hommes envers toi. Donc, moi je dirais que Jésus, en nous apprenant à prier, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aux autres, il est en train de nous enseigner à prier avec assurance. C'est bizarre. Mais quand je mets ces paroles dans ma bouche, c'est pas une manière de nous enseigner « Ah, je dois prier cette prière du Seigneur, mais je vais pas m'en sortir. » Il est en train de nous donner un argument pour être sûr. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aux autres. Si moi je peux venir et dire ça comme je pardonne aux autres, ben je suis certain. Je suis certain. Et le Seigneur est en train de nous dire que mon pardon envers vous est tellement fort. Il vous poussera à pardonner aux autres. Et donc à venir avec assurance que moi, qui suis plus clément que vous, je continuerai à vous pardonner vos péchés. Le seul chrétien qui ne peut pas prier cette prière « Pardonne-moi comme je pardonne aux autres » est le chrétien qui pour le moment est dans une situation anormale, où il a quitté l'évangile. Et il faut qu'il revienne. Si quelqu'un reste dans cette position de non-pardon, 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 il se peut qu'il n'ait jamais été vraiment converti. Je finis très brièvement avec le point D. Le point D sur le point 3, et puis je vais juste dire rapidement quelque chose au sujet du pratique. Je vais aller vite. Hein. Qu'est-ce que le Père Céleste fait aux vrais croyants qui ne pardonnent pas? Bien sûr, je dois vous dire quelque chose. Parce que Jésus dit, le Père ne vous pardonnera pas non plus. Mais qu'est-ce que ça ressemble à quoi? Un chrétien qui n'est pas pardonné. Est-ce qu'il va à l'enfer? Non, ça ne veut pas dire cela. Si c'est un vrai chrétien, Ça veut dire que en tant que père, pas juge final, mais en tant que père, il tient ton péché contre toi pour le moment, il tient rigueur. Et le Seigneur ne sourit pas envers toi. Il fronce les sourcils. Il t'enlève des bénédictions dans son amour, il t'aime beaucoup, mais il enlève sa présence intime. Tu ne grandis pas si tu restes dans cette situation. Tu manques de puissance spirituelle, tu manques d'intimité avec le Seigneur, parce que le Seigneur n'est pas en train de te pardonner, il est en train de tenir des choses contre vous, parce qu'il est en train de te traiter comme tu traites les autres. Regardez avec moi dans Matthieu 7, versets 1 et 2, pour que vous puissiez être sûr que Dieu fait une telle chose. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera et de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Dieu dit, je suis extrêmement patient et souple avec certains enfants, parce qu'ils vivent dans la grâce, et vivant dans la grâce, ils font grâce aux autres, et ils restent dans le cercle de mon évangile, et je suis très souple et très patient avec eux. Mais il y en a d'autres qui mesurent avec beaucoup de sévérité, ils ne donnent pas beaucoup de mou aux autres pour leur péché. Ils ont oublié l'évangile. Ils ont oublié le mou que je leur donne. Et pour les ramener, je dois les corriger. Et voilà, voici comment je les corrige. Je les traite avec la même sévérité qu'ils font avec les autres jusqu'à ce qu'ils se réveillent de leurs problèmes. Est-ce que vous voulez vraiment que Dieu soit aussi sévère avec vous dans votre vie chrétienne que vous êtes avec la personne à qui vous êtes en train de penser en ce moment? Non. J'y pense souvent. Et peut-être c'est très égoïste, mais je donne beaucoup plus de mou parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin de la part du Seigneur. Vous voyez? Je reste dans le cercle de l'évangile et de la grâce. Si vous voulez, Jacques 2, versets 12 et 13 dit la même chose. Et je ne vais pas tourner, mais vous pouvez le regarder plus tard. Mais je veux quand même vous faire remarquer que la parabole le dit aussi. Parce que la parabole enseigne son point principal, c'est à peu près cela. Il dit ceci dans le verset 29. Son compagnon se jeta à ses pieds et le suppliait, disant, « Prends patience envers moi, je te paierai. » Mais lui ne voulut pas, il allait le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Remarquez bien le verset 30. Il le jetait en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devrait. Et maintenant, regarde ce que le maître lui fait maintenant. Verset 34. Le maître, son maître irrité, le livrait au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Il le traite avec la même sévérité qu'il a usé envers l'autre. Maintenant, je dois terminer avec un mot sur la pratique. Alors, comment est-ce que je fais alors, quand je prie pour le pardon? Et là, je crois que nous avons une aide précieuse en Marc chapitre 11, versets 23 à 26. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, écoutez bien, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Et lorsque vous êtes debout en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos fautes. Jésus enseigne que quand je prie, pour n'importe quoi. Je vérifie. Quand je prie, je vérifie. Est-ce que j'ai quelque chose contre quelqu'un? Ça devient une discipline spirituelle, une habitude. Quand je prie, je pardonne. Quand je prie à Dieu, je fais un acte qui n'est pas envers Dieu, mais envers quelqu'un qui m'a fait tort. Dans la prière, je m'arrête avant de demander parce que je réalise, ah, j'ai un manque de pardon envers lui. Quand vous êtes debout, au milieu carrément d'une prière, vérifie et pardonne. En priant la prière du Seigneur, c'est ce qu'on fait. Avant de laisser échapper ces mots, Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, on vérifie et on pardonne. Je vous avoue qu'il y a des gens dans ma vie que j'ai dû pardonner des centaines de fois, littéralement. Je fais un vrai aveu. Des gens qui ont fait des grands torts contre moi, certains ne sont même pas vivants aujourd'hui. Et je dois quand même les pardonner presque toutes les semaines, au moins tous les mois, très souvent. Le souvenir, il est facile que mon cœur glisse dans l'amertume. Je renouvelle ce pardon, que je veux voir cette personne auprès du Seigneur un jour et l'embrasser. Ce serait magnifique. Sachant qu'elle sera pénitente de toute façon. N'est-ce pas? Mais je veux que mon cœur soit là. Pour vous et moi, nous sommes obligés de vivre comme ça. Car nous avons une immense dette qui nous a été remise. Et nous vivons au milieu d'un pardon colossal. Donnons-en un peu aux autres. Nous allons faire la scène maintenant. Et nous allons chanter dans le carnet le numéro 42. Mm-hmm.